Je vous invite à trouver le premier chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens 1, et nous lirons du verset 24 jusqu'à la fin. Nous lisons ces paroles d'un apôtre appelé par le Fils de Dieu, envoyé dans ce monde, qui est créé dans le premier siècle et dont Dieu a gardé les paroles pour nous. L'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Pourquoi êtes-vous à l'église? Pourquoi y a-t-il une église? Pourquoi est-ce qu'il y a des ministères dans l'église? Pourquoi est-ce que Dieu vous donne des ministres? Est-ce que vous profitez vraiment de quelque chose d'immense que Dieu vous donne en vous donnant le ministère de la parole et des ministres de la parole? Alors, l'apôtre veut pousser les Colossiens à écouter son épître en leur disant à quel point c'est quelque chose de vraiment très étonnant que Dieu leur fasse un tel don. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment nous devons nous comporter en face de la vie d'Église et des ministres que Dieu nous envoie avec sa parole. Comment pouvons-nous profiter et glorifier Dieu en face de ces dons? Et nous allons voir ça en quatre points. Dans le premier, quelle est la nature de la fonction d'un ministre de l'Évangile? Alors, Paul nous informe, Dieu nous informe par Paul, que d'abord, si vous avez un pasteur ou un prédicateur, un pasteur d'église, un ancien, il est d'abord un serviteur de l'Église. Un serviteur de l'Église. Regardez ce que Paul dit au verset 25. C'est d'elle, donc c'est de l'Église, que je suis devenu serviteur. Vous avez eu des serviteurs, moi j'en ai pas eu. Sauf pour un court moment en Afrique, parce que tout le monde dans le pays où je vivais avait des serviteurs. Je ne voulais pas en avoir, et on m'a dit, si tu n'as pas de garçon qui fait la ménage un peu pour toi, ou de bonne, comme on les appelait, ce sera mal vu. Ce sera mal vu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas donner à quelqu'un un travail et les aider? Pourquoi est-ce que tu gardes tout pour toi-même? Donc j'ai dit ok. Donc on a eu on les appelait un boy, oui, c'était comme ça, Mais moi, je n'utilisais pas ce mot, je l'appelais par son prénom. Et donc, il venait deux ou trois fois dans la semaine, il nous repassait les vêtements, il était tout gentil. On a eu une bonne relation avec lui. On lui a fait part de l'évangile. Il est devenu chrétien et il est devenu un ami aussi. Mais il était, vous pouvez penser, le serviteur, n'est-ce pas? C'est le serviteur de la maison, c'est l'employé. Et donc Paul dit, moi je suis le serviteur dans l'Église. Ne pensez pas qu'un prédicateur, un pasteur, c'est quelqu'un de grand. C'est pas le quelqu'un de l'Église, le pasteur. C'est pas ça du tout. Et nous sommes dans la folie, n'est-ce pas, nous qui voulons toujours nous lever. Soit nous voulons être un pape, soit nous voulons avoir un pape. Nous voulons exalter. Donne-moi quelqu'un à exalter. Ça, c'est notre péché qui nous pousse à vouloir exalter, à mettre des gens sur un piédestal, à faire des idoles alors que Dieu seul est grand. Mais un ministre de l'Évangile n'est pas un seigneur, il n'est pas un maître, il n'est pas un pape, il n'est pas quelqu'un qui vient en grande pompe, c'est un serviteur. C'est un serviteur, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, c'est tout. Paul devait dire à un moment donné, je prends Dieu comme témoin que pour vous épargner, je ne suis plus allé à Corinthe, il parle aux Corinthiens. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais que nous contribuions à votre joie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et il y a des églises, plein d'églises, même de bonnes églises, où les pasteurs sont... Oh, là, c'est le pasteur. Mais ne faites jamais ça avec moi, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Si vous êtes tenté, allez passer un moment avec ma femme et demande-lui de vous parler de mes faiblesses et puis vous allez cesser de faire ça. Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. C'est comme ça que les patrons fonctionnent, n'est-ce pas, dans ce monde. Et il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. D'accord. Première chose, on comprend. Le pasteur est là pour être votre serviteur. Mais deuxièmement, il est là pour être votre serviteur en étant serviteur de la parole de Dieu. Serviteur de la parole de Dieu. Nous lisons dans le verset 25, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Ça, c'est ma tâche première. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que je fais avec vous, que ce soit une visite pastorale, un conseil en aparté, quoi que ce soit, je le fais avec la parole. Je le fais avec la parole. Je suis serviteur. Je ne suis pas venu et un pasteur ne vient pas pour vous donner ses bonnes opinions. Pour vous faire part de ses expériences. Ce n'est pas cela, un serviteur de Dieu. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu dans sa parole. Vous n'avez pas besoin d'entendre mon expérience de Jésus-Christ. Parfois, je peux en faire allusion en passant, mais essentiellement, vous avez besoin d'entendre ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, sa sagesse, qui montre la voie, qui montre la manière de vivre avec lui et pour lui. C'est de ça que vous avez besoin. Et donc, ça veut dire que si vous avez un bon pasteur, il est caché derrière la parole. Quand il vient, vous savez que c'est ligne par ligne qu'il va vous exposer la parole. Il va vous expliquer cette phrase. Je suis en train de vous expliquer une phrase de Colossiens en ce moment, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien d'autre à faire. Je suis derrière la parole. Et si je déclare, si j'affirme quelque chose, il faut que je soutienne ça par les Écritures. Parce que je suis le serviteur de la parole. Alors, si vous avez été dans une église et vous n'avez pas appris les Écritures, je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une église, parce que vous ne risquez pas de rester ici toute votre vie. J'espère que c'est une bonne église, que Dieu nous fasse meilleur. Mais de toute façon, si jamais vous avez besoin de chercher une église et de chercher quelqu'un qui sera votre pasteur, je vous donne un petit test. Si vous êtes dans une église pendant un certain temps et vous écoutez les sermons des pasteurs, et après un temps, vous ne connaissez pas mieux les Écritures, mais vraiment, vous devenez quelqu'un qui connaît les Écritures, le pasteur n'a pas fait son boulot. S'il vient, il donne plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de témoignages, de choses stupéfiantes, mais vous ne savez pas où se trouve l'épître d'Éphésiens, c'est pas un ministre fidèle de Dieu. Quel que soit le caractère attrayant de sa personnalité, quelque impressionnant qu'il soit, quelles que soient les histoires fabuleuses qu'il vous raconte, s'il n'est pas serviteur de la parole et s'il ne vous a pas amené à une connaissance ligne par ligne de la parole de Dieu, il n'a pas fait son boulot. Parce que Paul dit, Dieu m'a chargé de vous annoncer pleinement la parole. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises avec beaucoup d'air chaud qui brassent et peu de ministères véritables. J'ai été chargé par Dieu de faire une chose, vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Troisièmement, Paul est un serviteur de l'Église, tout ministre doit l'être, un serviteur de la parole, et troisièmement, un serviteur souffrant. Au début de notre passage, dans le verset 24, vous lisez ceci. Paul dit, « Je me réjouis maintenant » dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que ses souffrances sont rédemptrices. Quand Christ souffre sur la croix, ses souffrances, il est en train de subir la peine de nos péchés et de nous délivrer de cette peine. Et Jésus dit à la fin de sa mort sur la croix, « Tout est accompli. » Alors les souffrances qui paient la peine de vos péchés sont déjà toutes faites. Christ les a encaissées toutes lui-même, tout seul. Si Paul souffre, ce n'est pas pour accomplir votre rédemption. C'est pour appliquer votre rédemption. Christ vous a procuré tout le salut, mais maintenant il faut que quelqu'un vous amène la nouvelle du salut. Et pour vous amener cette nouvelle et vous expliquer ça, on va souffrir. On va souffrir parce que vous ne voulez pas qu'on vienne vous parler de ça au début, n'est-ce pas? Vous n'avez pas voulu. Et certains vont essayer de nous arrêter, de nous empêcher. Satan lui-même va nous attaquer si nous annonçons la parole de Dieu et nous allons souffrir dans notre chair. Quand nous vous accompagnons dans pour vous aider avec vos péchés et vos problèmes, nous allons souffrir. Nous allons, le fidèle serviteur de Dieu se bat pour vous dans la prière. Ce que vous ne voyez pas, Paul dit, je combats, n'est-ce pas, dans ce passage. Et le verbe en grec, c'est agonizomai, agoniser. Donc, le fidèle serviteur de Dieu, on peut le voir par la marque non pas de sa force de personnalité, mais par la marque de sa souffrance. De sa souffrance. J'allais dire beaucoup plus, mais je vais m'empêcher d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que Paul, quand même, il doit insister là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il parle à cette église des Colossiens de ses souffrances? Il veut qu'ils les sachent, ces souffrances. Je crois que si vous regardez le chapitre 2 et le verset 18, vous avez peut-être une idée de la raison. Et puis je vais... Oui. Dans ce verset 18, il dit ceci, « Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Apparemment, ces faux enseignants qui sont entrés dans l'église de Colosse, c'était des vantards. Ils étaient enflés d'un vain orgueil de leur vision. Et il venait leur dire, croyez-nous, parce que la marque que le Seigneur parle par nous, c'est tout ce qu'on a vécu, nos expériences. Et Paul dit, c'est exactement le contraire pour moi. La raison pour laquelle je peux vous assurer que moi je vous parle en Christ, en union avec Christ, c'est parce que je participe à ses souffrances. Christ est le serviteur souffrant, n'est-ce pas? Homme de douleur et habitué à la souffrance. Si vous voulez quelqu'un qui est à lui et en train de le servir, c'est quelqu'un qui marche dans ses traces. Et à un moment donné, dans une autre épître, il parle des marques sur son corps. Il dit que personne ne m'embête plus. J'ai les marques de Christ, de la croix dans mon corps. Il a été battu. Et les cicatrices, ça c'est sa fierté. Pas ses grandes expériences. Donc voilà un peu le caractère de la fonction d'un ministre. Un serviteur de la parole, un serviteur qui est prêt à aimer jusqu'à souffrir. Deuxièmement, et plus courtement, par quel droit est-ce que quelqu'un accède à l'office d'un ministre de l'Évangile, à l'office du pasteur? Par quel droit? Dans le texte, Paul nous dit, au début de ce texte que nous avons lu, verset 25, « C'est d'elle que je suis devenu serviteur, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer la parole de Dieu. » Ça veut dire tout simplement qu'un ministre de la parole, ce n'est pas quelqu'un qui devient pasteur parce qu'il en avait envie. Il y a des hommes qui ont terriblement envie d'être prédicateurs. Mais ce serait le plus grand malheur possible pour l'Église. Parce que Dieu ne les appelle pas à cette fonction. Ce n'est pas une envie humaine. Même si celui qui devient pasteur, Dieu met en lui l'envie, ce n'est pas tous ceux qui ont l'envie que Dieu appelle au pasteurat. Et donc, dans une église, dans le contexte d'une église, un homme qui aspire au ministère ne peut pas simplement aller à la fac, aller à l'institut biblique et dire « je vais être pasteur ». C'est l'église qui doit voir s'il a les dons et les qualités, s'il a les marques d'un appel, s'il correspond. Et c'est l'église, guidée par le Saint-Esprit, dit, cet homme, il a la main de Dieu sur lui. Il a un don d'enseignement, il a un don de prédication, il a vraiment le caractère d'un berger. Eh bien, l'Église lui dit, va, il faut que tu te formes. C'est comme ça que les gens... On est chargé par Dieu, à travers l'Église, d'aller dans le ministère. On ne se présente pas tout seul pour aller dans le ministère. Et là, c'est un grand problème. dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais demandé à personne s'ils devaient aller dans le ministère. Et moi, je peux vous raconter des cas que je connais où des hommes, des jeunes hommes en France sont allés de leur propre chef à la faculté de théologie pour devenir pasteur, et ça a fini très mal. Donc, Paul le dit, il dit, moi j'ai été chargé par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il y a une raison. Il veut que les Colossiens lisent cette épître où il va corriger les faux enseignements comme quelqu'un, non, comme quelque chose qui ne vient pas d'un simple homme, Paul, mais qui vient de Dieu. J'ai été chargé de vous dire ceci. Et c'est important que vous sachiez que vous avez un pasteur ou un prédicateur qui ne parle pas simplement parce que lui, il a voulu être pasteur. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Malheur à moi si je ne vous prêche pas la parole de Dieu. Ça, c'est encourageant pour vous, parce que vous savez que Dieu est derrière le ministre de l'Évangile fidèle. C'est extrêmement important. Vous devez comparer ce que votre pasteur dit avec la Bible, oui, d'accord, pour vous assurer qu'il dit vrai. Mais lorsque vous avez un pasteur fidèle qui se soumet à la parole, qui est pieux, qui prie, qui souffre, qui se met derrière la parole, eh bien, lorsque vous l'écoutez, vous devez toujours avoir dans la tête qu'il a été chargé par Dieu de vous dire ces choses. Donc c'est Dieu qui vous parle quand vous écoutez la prédication fidèle, un serviteur fidèle. Ça change la manière de s'asseoir à l'église, n'est-ce pas? Si le Dieu de l'univers a chargé cet homme de rien de vous dire ça, eh bien Dieu s'approche de vous. Ensuite, quelle est la cible? On a parlé de la nature du travail, le serviteur, serviteur de la parole. On a parlé de son droit à l'accès au ministère. Et maintenant, quelle est la cible du travail du ministre de l'Évangile? Nous lisons dans le verset 27 que Paul dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens ?» À plusieurs reprises dans ce passage, il nous parle de la cible. Au début, pardon, il dit ceci, il dit, dans mes souffrances, pour vous, j'ai été fait serviteur de l'Église, je dois lancer la parole aux païens. Alors, Paul nous dit que pour lui, la cible que Dieu détermine, c'est pas lui, c'est les païens, c'est les non-juifs. Il est un peu spécial. Il doit aller dans le monde entier, pratiquement, le monde entier connu, l'Empire romain. Et il doit annoncer pleinement la parole de Dieu. Votre pasteur, vos anciens, vos ministres ont une cible plus restreinte, c'est-à-dire chaque pasteur est chargé principalement d'être le berger d'un troupeau, d'une église locale, et de s'occuper de ce troupeau, de prendre soin de ces personnes dans cette église. Et je pense que Paul insiste un peu sur le fait qu'il soit l'apôtre auprès des païens, parce qu'il parle aux Colossiens, à des païens, n'est-ce pas? Or, il y a des faux enseignants qui viennent dans l'église qui sont aussi Colossiens, ils sont de la région, alors que lui, il est juif, il vient de Jérusalem. Pourquoi est-ce que tu vas écouter ce juif? Il te donne un enseignement, un christianisme un peu juif. Écoute-nous plutôt. Nous voulons te donner un évangile colossien. Nous voulons te donner un évangile asien. Un évangile français. Un évangile africain. Donc, écoute-nous plutôt. Et Paul est en train de dire, Dieu m'a chargé, moi, Paul, juif, de prêcher à vous, non-juifs. C'est de moi que vous devez avoir ce message. Désolé, que c'est moi, américain, que vous, français, vous devez écouter l'évangile. Je suis franchement très, très désolé. Je sais que quand l'église de Grenoble que nous avons implantée a eu Joël Favre comme pasteur, oh, quel bonheur d'entendre un bon accent français, un grammaire parfait chaque dimanche. N'est-ce pas? Mais, désolé, mais c'est de ma bouche que Dieu vous donne pour le moment cet évangile. Donc, prenez-le de moi. Quel est le but? Et je finis avec ça. Quel est le but maintenant? Quelle est la nature du travail? Quel est le droit d'accès à ce travail? Quelle est la cible? Quel est le but du travail d'un pasteur? Paul dit dans le verset 25 ceci. Dieu lui a chargé de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux d'abord vous soulager. Cette partie, je vais vous prêcher la semaine prochaine. Surtout la semaine prochaine, le mystère caché de tout temps est maintenant révélé, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, je me suis dit dans la semaine, est-ce que ça va être sûrement le plus important que j'ai jamais prêché? Mais je veux juste vous montrer en terminant ce matin que le but du pasteur, le but du ministre de l'évangile, c'est de vous rendre parfait en Christ. Voilà. Si vous voulez, vous rendre mûr, mature en Christ. Paul est chargé par le Seigneur Jésus-Christ de faire ça. Le Seigneur me charge de faire cela parce qu'il le veut pour vous. C'est sa volonté, c'est son amour, c'est sa bénédiction. Il veut vous transformer. Il charge des ministres. Et Paul dit... si vous voulez, au verset 29, le dernier verset, c'est à cela, ce perfectionnement des chrétiens, que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, il y a une puissance qui agit. Christ lui-même agit puissamment à travers les ministres parce qu'il vous aime, parce qu'il tient à ce que vous soyez amenés à la maturité, à la perfection de Christ. Que vous soyez conformés à l'image de Christ. Le bonheur d'être comme lui. Et de plaire à Dieu en étant comme lui. Vous voyez, le Seigneur vous veut, mais il ne vous veut pas du tout comme vous êtes maintenant. Vous êtes à lui si vous êtes chrétien. Mais vous n'êtes pas propre à vivre dans sa présence au paradis en ce moment. Dieu a du travail à faire chez vous. Il vous veut autrement. Même ma femme me veut autrement que ce que je suis. N'est-ce pas? Vous trouvez ça étonnant? En Éphésiens, Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église différente, changée, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ça que nous sommes en train de faire dimanche après dimanche à l'église. C'est pour ça que vous êtes là. Dieu ne veut pas que vous restiez comme là, comme ce que vous êtes. Et moi non plus. Ça ne peut pas arriver. Le Seigneur a un grand amour pour vous, mais ce n'est pas un amour à l'illusion. C'est un amour passion, mais pas indulgent. L'indulgence, c'est comme le grand-père, le vieux grand-père, qui il s'en fiche de ce que ses petits-enfants deviennent. Tant qu'ils sont heureux, il dit, tant qu'ils sont heureux. Mais ça, c'est pas un amour, ça. Crois que je devienne? Tu ne m'aimes pas assez pour me refuser des trucs parfois, pour me rendre malheureux, pour que je change et je devienne ce que je dois. Ben, tu ne m'aimes pas beaucoup. Et Dieu, il a un amour tenace et fort, et il tient à ce que vous ne restiez pas dans la boue de vos péchés. Et donc, il envoie des serviteurs, des ministres, et dans son amour, il est en train de vous laver. Chaque prédication doit vous laver un tout petit peu plus, doit enlever cette façon de penser et le remplacer par une autre, doit vous amener à vous repentir de cette priorité dans la vie et avoir celle-ci. De vous voir là où, ah, j'ai pas vu la saleté de ma vie qui était là, dans ce coin de mon cœur, mon attitude, mon comportement. Mais après cette prédication, je vois où j'ai besoin de dire non, je me livre à toi. Si vous n'êtes pas un chrétien qui est en train d'être perfectionné, parce qu'il y a des gens dans les églises qui sont contents de rester à peu près ce qu'ils sont depuis des années. Et qui n'ont pas envie de devenir plus proches de Jésus-Christ. Plus dévoués à la prière. Plus purs dans leurs pensées. Plus engagés dans le royaume de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu, plus comme ça, n'est-ce pas? Plus aimant, patient. Il y a des gens qui sont contents de ne pas bouger. Mais si vous êtes quelqu'un comme ça, je vous dis, est-ce que vous allez vraiment au paradis? Parce que si vous refusez tout le but du ministère chrétien, tout le but du travail des pasteurs qui est de vous perfectionner maintenant, pourquoi est-ce que Dieu voudrait vous avoir dans son ciel? Vous voyez? Vous vivez complètement rebelle à tout ce qu'il veut pour vous ici-bas. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous lui appartenez? Non. Le vrai chrétien se distingue par le fait que le ministère que Dieu lui envoie, par la parole, il le veut. Il en a soif. Il prie pour ce ministère. Il prie pour ceux qui lui prêchent la parole. Il demande que leur ministère soit efficace dans sa vie et dans la vie des autres. La bonne nouvelle, c'est que si le Seigneur vous touche et vous êtes convaincu un peu en ce moment, oui, ça me concerne, ça, vous n'avez qu'à vous repentir en disant c'est Dieu lui-même qui me tire. Si Dieu lui-même, il vous tire à la repentance, c'est qu'il vous aime et qu'il va vous rendre capable de faire tout ce qu'il vous demande de faire maintenant. Ne craignez rien. Le Seigneur vous tire par sa parole chaque fois qu'il vous convainc. C'est à cela que je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Et Christ va travailler puissamment en vous pour vous perfectionner. Vous n'avez qu'à vous livrer à son amour, au ministère qu'il vous donne. La semaine prochaine, nous allons donc parler de ce grand mystère qui est Christ en vous, espérance de la gloire. Parce que ce perfectionnement, cette transformation en vous, ne va pas se passer par un principe, une discipline, un rituel, mais plutôt par une personne qui vient prendre la propriété qui est votre personnalité et votre corps. Il en devient propriétaire et occupant. Et de dedans, il remplit votre vie, vos pensées, vos affections de sa propre sainteté, sa propre bonté. Que le Seigneur nous aide donc à remercier sa bonté pour le ministre de l'Évangile et à en profiter. Nous allons chanter le 257 de 257. C'est le 24. Oui, on va plutôt le prendre dans le carnet parce qu'on a une mélodie différente. Dans le carnet noir, le 24.
Que recherche mon âme à te trouver, se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'errai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas en cette nuit profonde, et par la tirée par la foi.
Excusez-moi.
De ton amour, la voix se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté. Et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour toi, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme t'a fut chère, je compte, ô Dieu, sur ta fidélité.
Je vous invite à prier librement.